Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 8 novembre 2022 et dorénavant, il y a 25 000 followers sur cette chaîne Swissquote en français. Alors oui, j'ai encore mes cheveux, mais ne vous emballez pas, ça ne saurait tarder. Le lundi, les coiffeurs sont fermés, je pensais pas que ça irait si vite. Pour faire les 50 derniers abonnés, eh bien c'est fait, on a réussi. Demain, je vais remplir mes promesses et donc on verra ce que ça donne sans les cheveux. Bien, ceci dit, mis à part, merci à tous d'être là aussi régulièrement tous les matins. Merci à tous d'aimer visiblement et puis merci à tous ceux qui viennent régulièrement, qui se greffent de plus en plus sur cette communauté. Merci à toute l'équipe de Swissquote de m'avoir fait confiance, de nous avoir fait confiance, à Vincent et à moi aussi. On est super content d'être là et de continuer encore et encore. Reste plus qu'à fixer le prochain objectif. Qu'est-ce qu'on fera à 50 000? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire comme connerie d'ici là? On verra bien, mais en tous les cas, il va se passer quand même un tout petit peu de temps, puisqu'on aura mis quand même 25 mois pour arriver ici. Voilà, c'est un premier step qui se franchit, et je dois dire que j'en suis très 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 content. En ce qui me concerne, je m'éclate tous les matins avec ces vidéos, vous le voyez peut-être en tous les cas, et j'espère que ça va continuer encore longtemps. Alors on attaque tout de suite avec ce qui se passe sur les marchés boursiers. Je vous préviens, ça va aller très très vite parce qu'il ne se passe pas grand chose. Dans le monde merveilleux de la finance, on est devenu des spécialistes de l'attente. Si vous voulez bien, depuis quelques semaines, on attend un signe du CPI, on attend les chiffres de l'emploi, on attend de savoir si la Fed va pivoter ou pas, on attend de savoir les résultats des élections de mi-mandat. Bref, on passe notre temps à attendre, puis dès qu'on a les réponses, eh bien, on agit pendant 35 minutes, et puis on commence à attendre pour la prochaine échéance. Alors là, on est en pleine digestion de ce que nous a annoncé la Fed la semaine dernière. Tout le monde se pose des questions, tout le monde se demande ce qui va se passer ensuite. Alors, je rappelle quand même que à chaque fois qu'on a eu un meeting de la Fed cette année, pratiquement, chaque fois qu'ils sont venus monter les taux, pratiquement, à chaque fois, on s'est dit le lendemain, la prochaine fois, c'est possible qu'ils commencent à se calmer. Et puis non, ils ne se sont pas calmés. On s'est vautré en juin, on s'est vautré en juillet, on s'est vautré pendant Jackson Hole, on s'est vautré en septembre, on s'est vautré en octobre, et on s'est encore vautré début novembre pour nos prévisions, les prévisions qui disaient que normalement, cette fois, la Fed devrait commencer à changer son fusil d'épaule. Eh bien non. Et encore une semaine en arrière, Monsieur Powell nous a dit clairement non, il ne changera pas de direction, ça sera toujours la même chose. Tant qu'il ne verra pas une amélioration au niveau de l'inflation. Mais, comme il y a eu les chiffres de l'emploi vendredi, on a déjà les premiers stratégistes qui viennent nous dire quand on regarde comment c'est en train de tourner au niveau de l'emploi, c'est pas exclu que lors du prochain meeting de la Fed, M. Powell va changer son fusil d'épaule. Donc voilà, on attend le prochain meeting de la Fed. Mais heureusement, heureusement, entre deux, il va se passer plein de trucs, à commencer par les élections de mi-mandat. Donc les élections de mi-mandat, c'est ce soir, cette nuit, on devrait avoir des réponses demain matin, il y a intérêt parce que sinon on va se retrouver dans une situation un tout petit peu délicate. On est quasiment certain qu'on va avoir ce qu'on appelle un gridlock, c'est-à-dire que les républicains auront une partie du pouvoir, les démocrates une autre partie du pouvoir, et en gros il va rien se passer pendant les deux prochaines années. Entre deux, on nous annonce déjà que le 15 novembre, la semaine prochaine, donc on a Monsieur Trump qui va faire une annonce majeure sur les réseaux sociaux. Évidemment, on suppose qu'il va déjà annoncer sa candidature à la présidence pour dans 2 ans, comme ça ils ont le temps de s'occuper d'autres choses, puisqu'il n'y aura plus rien à faire au niveau politique, ils pourront s'occuper de la campagne présidentielle avec Joe Biden, dans l'hypothèse où il est toujours là dans 2 ans. Néanmoins, statistiquement, quand on regarde ce qui se passe sur les marchés boursiers après les midterm elections, la bonne nouvelle, c'est que ça monte. Alors, on a plein de prédicateurs qui sont débarqués, qui ont débarqué sur les réseaux, dans les médias ces derniers jours, et entre autres, eh bien, il y a le stratège de Morgan Stanley qui nous a sorti les bonnes vieilles statistiques de post-midterm election qui dit que systématiquement, quasiment 3 fois sur 4, après les midterm election, le marché monte. Sauf que lui, il a affiné un tout petit peu la théorie, il a dit après les midterm election, ça continue à monter, c'est un rallye de fin d'année, sauf si par hasard, le rendement du 10 ans continue à monter, auquel cas, ça pourrait empêcher le marché de monter. En gros, si ça monte, ça monte, et si ça monte pas, c'est que ça baisse. Là, on est en plein dans la théorie financière et les gens sont vraiment à fond en ce moment pour nous apporter plein d'informations très très précises sur la suite. À noter qu'on a également eu Monsieur Nouriel Roubini, mon ami Nouriel Roubini, est revenu parler. Alors lui maintenant c'est toutes les semaines. Avant c'était tous les mois. Mais là visiblement il est moins occupé en boîte de nuit. Alors donc du coup il vient plus souvent. Il vient plus souvent parce qu'il faut qu'on parle de lui forcément. Donc là il nous a annoncé hier un peu comme d'habitude. Je crois qu'il a sorti un truc du style on va tous mourir et le marché va se casser la figure et il va perdre 30%. Alors ce qui est assez bien c'est que le discours qui tient là du on va tous mourir et le marché va perdre 30% c'est le même discours qui tient quasiment depuis 2009. L'avantage c'est qu'il perd pas trop de temps à réécrire les textes, il reprend la même chose, hein. Il raconte les mêmes histoires, et puis il se gourre jamais, parce qu'il dit toujours 30%, que ce soit à partir de 2000, à partir de 5000, à partir de 10000, sur n'importe quelle base de référence, c'est 30% de correction sur les marchés. Comme ça, on se trompe pas, hein. On s'habitue aux 30%, on pourrait d'ailleurs commencer à l'appeler Monsieur 30%, donc hier encore, il est venu nous rassurer, nous certifier, nous confirmer sa stratégie. On va se péter la gueule. Alors ce qui est bien, c'est qu'en ce moment, il y a plein de gens qui viennent faire des théories, hein, parce que comme c'est très calme, qu'on attend les midterms, puis après on aura le CPI jeudi, ben on sait pas trop quoi faire. Techniquement, on est au milieu de nulle part, le Nasdaq est au bord du gouffre, enfin bref, on n'est pas dans une super situation très très confortable. Le Dow Jones ne semble plus jamais vouloir s'arrêter, puis aller toujours plus haut, parce que la base, c'est d'être long pétrole, et long dans des sociétés défensives qui payent du dividende. Le truc était complètement has-been il y a encore 6 mois en arrière. Et donc du coup, eh bien, on cherche des trucs pour s'occuper. Alors là, on a encore eu d'autres personnes qui sont venues parler. On a eu monsieur Jeremy Siegel, professeur d'économie Wharton School. Comme je disais ce matin dans un autre papier, vu tout le temps qu'il passe sur CNBC, je suis pas sûr qu'il donne beaucoup de cours à l'école. Néanmoins, il est venu nous dire encore une fois que le marché immobilier allait se péter la figure et que comme le marché immobilier allait se péter la figure, eh bien la Fed n'aurait pas d'autre choix que de commencer à baisser les taux. C'est facile la finance, et puis pour terminer, cette espèce de florilège de personnes qui savent ce qui va se passer, on a eu monsieur Paul Krugman, alors lui il est quand même prix Nobel d'économie, hein, c'est comme prix Nobel de la paix, mais pour l'économie. Et puis monsieur Krugman, eh bien, qu'est-ce qu'il a dit? Lui, il a dit que selon lui, la véritable inflation, elle est autour de 4% aux États-Unis. Alors je sais pas comment il calcule sa véritable inflation à lui, mais le mec qui payait son paquet de 12 dollars l'année passée, qui aujourd'hui le paye 21, je suis pas sûr qu'il soit d'accord sur la théorie des 40%, c'est une autre histoire. Néanmoins, comme l'inflation est faible, l'inflation réelle, parce que c'est vrai que le loyer qui a pris 30%, c'est pas des vrais 30%, c'est une inflation, c'est une fausse inflation. Et si ça se trouve, les sociétés qui ont augmenté leur prix, ils vont rendre l'argent aux gens à la fin de l'année. Donc du coup, là aussi, monsieur Krugman pense que par rapport à ça, monsieur Powell aura le choix et l'opportunité de ralentir sa hausse des taux lors du prochain meeting de la Fed. Autrement, eh bien, je me répète un petit peu, mais c'est quand même fascinant en ce moment. On continue avec l'histoire de la Chine. Hein. La Chine qui, je vous le rappelle, va déconfiner, va arrêter sa politique zéro Covid. En tout cas, c'est ce que nous confirme régulièrement le Bloomberg et le Wall Street Journal. Et c'est ce que nous infirment les gouvernements chinois qui, enfin, le gouvernement chinois qui, eux, continue à dire, mais non, on va pas déconfiner tant que ça s'est pas amélioré. Il n'y a rien à faire. Mais alors, c'est marrant parce que vous avez hier, ce week-end, le gouvernement qui dément cette rumeur, et puis le lundi, bam, vous avez le Wall Street Journal qui, alors selon une source proche du gouvernement, eh ben quand même, ils vont faire attention. Dans la foulée, vous avez Goldman Sachs qui annonce que lorsque la Chine aura déconfiné prochainement, selon les informations du Wall Street Journal, eh bien, il se pourrait que le marché prenne facilement 20%. Donc le gouvernement, ils sont là, et les gars, on vient de vous dire qu'on n'allait rien faire. Mais non, non, mais nous, les médias américains, on sait mieux que vous. Donc, du coup, eh bien, on va déjà anticiper la suite. Donc, on est dans une espèce de... Comment on dit en français ? Une espèce d'immense bordel où finalement, plus personne sait quoi penser ni comment le penser. Et on attend. On attend de voir qu'est-ce qui va nous amener ensuite pour pouvoir... Qu'est-ce qui va nous arriver ensuite pour pouvoir continuer aller chercher une direction à ces marchés. Bon, l'avantage, c'est que pour l'instant, on cherche des directions seulement jour après jour. On cherche pas à savoir où on sera dans 6 mois. Pour l'instant, on cherche déjà à savoir où on sera demain, ce qui est déjà largement suffisant. Donc voilà, si vous voulez, en gros, aujourd'hui, je pourrais m'asseoir sur un arrêt de bus et attendre pour voir ce qui va se passer. Et puis demain, on en saura peut-être un peu plus. Il y a aussi un point qu'il faut relever aujourd'hui, c'est l'histoire de FTX et de Binance sur les crypto-monnaies. Alors vous l'avez peut-être vu, le Bitcoin est en train de rebaisser un petit peu, il y a des remous qui sont en train de se passer dans le marché du crypto. Alors je vous préviens, j'y connais que dalle en crypto, c'est pas une grande nouveauté, mais d'après ce que j'ai vaguement compris, il y a Binance qui a une participation dans le token de FTX qui s'appelle FTT, donc j'ai bien retenu, hein. Binance qui a une participation dans le token de FTX qui s'appelle SFTT, ils ont décidé de le vendre, et donc ça a mis une pression vendeuse assez massive sur le FTT, malgré qu'ils ont dit qu'ils allaient spreader leur vente sur plusieurs mois. Apparemment, il y aurait certains fonds, dont Alameda Capital, qui seraient leveragés massivement. Et quand vous êtes leveragé massivement et que vous avez votre titre ou votre, on va dire, position qui se prend 25% ou 20% dans la gueule, généralement, vous devez liquider. Et quand vous devez liquider une position qui est leveragée, eh bien, ça met encore plus de pression sur la position en question. Et donc, vous devez déleverager encore un peu plus. Ça s'appelle un effet boule de neige. Et donc, du coup, eh bien, il semblerait que ça commence à craquer un peu aux entournures. La FTX, c'est la boîte qui appartient à monsieur Sam Bankman-Fried, qui est un petit peu le génie de la crypto, qui a toujours été un peu immunisé par rapport à la correction de ces derniers temps. Là, il semblerait que c'est en train de changer un tout petit peu. Alors, la problématique aujourd'hui sur ce secteur-là, pour ce que j'ai pu comprendre ce matin, moi, un vieux de 51 ans, c'est que globalement, eh bien, ça pourrait quand même déclencher un espèce de tremblement de terre avec plein d'aftershocks un petit peu partout dans la crypto-monnaie. Alors, quand vous regardez un petit peu ce qui se passe dans la cryptosphère, sur Twitter, entre autres, les gens commencent à se dire que ça pourrait secouer un petit peu ces prochains temps, donc à surveiller attentivement ces prochains jours. Voilà, pour le reste, moi, je vais vous laisser aller vaquer à vos occupations qui vont se passer principalement assis sur une chaise à attendre les résultats des midterms, et puis après, on va attendre le résultat du CPI, et puis après, on verra si tous nos prédicateurs du moment ont bien eu raison par rapport à la suite des événements, ce qui devrait se résumer plus ou moins à du pile ou face par rapport à ce qu'on a vu ces derniers mois. Mais d'ici là, c'est pas parce qu'on a atteint les 25 000 followers qu'il faut s'arrêter là. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français, à liker cette vidéo, à me proposer le prochain objectif que je devrais faire. Qu'est-ce que je pourrais bien faire de stupide quand on arrivera à 50 000 followers? Et puis autrement, passez une excellente journée et je me réjouis déjà de vous retrouver demain avec un look un tout petit peu différent. Passez une très bonne journée. Bye bye.